Cette semaine, Québécois, on parle des plus petits partis. Bienvenue à un autre épisode de Québécois. Bonjour Charles.
Salut Gabriel.
On a finalement survécu aux libéraux la semaine dernière. Je pense que c'est le cas peut-être pour toute la province. Hein? On a quelque chose d'un peu différent cette semaine. Charles, qu'est-ce que tu nous as réservé?
Cette semaine, il y a un de nos auditeurs qui a décidé de se mouiller et de prendre contact là, pour qu'on discute un peu de politique. Et on s'intéresse particulièrement aux plus petits partis, hein, ceux qui ne font peut-être pas partie des trois gros là, qu'on voit toujours dans les médias. Et c'est important, je pense, qu'il y ait des petits partis, parce qu'eux, des fois, peuvent nous amener un éclairage un peu différent, plus près de certaines positions qui sont peut-être moins répandues. Et l'importance d'avoir une pluralité d'opinions, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre la gauche et la droite, parce que si un va trop loin, ben au moins, l'autre peut le ramener un petit peu plus, moins dans l'extrême. Fait que les petits partis, à mon avis, ont une fonction intéressante pour équilibrer le débat public. Donc, aujourd'hui, nous avons Christopher, qui est avec nous sur Skype pour jaser politique.
Bonjour à tous.
Bonjour Christopher. Christopher qui s'est décrit à nous tantôt comme étant un partisan de bonnes idées qui est ni à la droite ni à la gauche, mais grâce aux mauvaises questions de la boussole électorale, eux autres, ils le mettent à droite. C'est une bonne description, là.
Oui, ça ressemble pas mal à ça.
Il nous a aussi dit qu'il était blond aux yeux bleus, fait que prenez-en ce que vous voulez.
On va en profiter, j'étais à radio.
Mais c'est ça, ouais. On est tous beaux à la radio, c'est vraiment génial. Fait que Charles, par où c'est qu'on commence? Quel petit parti on veut commencer à ce matin-là?
Je dirais qu'au Québec, on a quand même plusieurs petits partis. Il y en a certains petits partis qui tendent à devenir grands. On l'a vu, par exemple, avec la montée de l'ADQ dans les années 2000, qui est devenu officiellement le troisième parti. Et là, il y a Québec solidaire qui essaie de monter aussi. Il y a le Parti conservateur du Québec, le NPD. Vous allez voir la liste complète des partis reconnus, il y en a des...
Ça existe encore, le Bloc POT, ça existe encore, ça?
Oui. En fait, vous savez qu'il y a 21 partis autorisés cette année?
21 partis autorisés.
C'est un retard en 45 ans.
Wow! Eh bien, la démocratie à l'œuvre.
Ah oui, des partis comme le Citoyen au pouvoir, vous vous rappellerez le parti de Rambo Gauthier, qui n'est malheureusement plus chef du parti.
Ah, il n'est plus chef. Qu'est-ce qui est arrivé, lui? On n'entendait plus parler de Rambo.
Il s'est décidé de la politique en décembre 2017. Donc, il n'a pas aimé la pression publique, je crois.
Eh bien, on va lui souhaiter bonne chance dans ses futurs projets.
Sinon, j'apprécie souvent les slogans. Donc, on connaît sûrement les slogans des partis principaux, mais pas ceux des plus petits partis. Donc, on y va avec Citoyens au pouvoir, pas de promesses, que des obligations. Donc, en gros, ils sont très populistes, donc ils essaient d'aller chercher les gens qui chialent que les partis politiques ne remplissent jamais leurs promesses. On a un parti qui s'appelle l'équipe autonomiste. Donc, plus à droite, mais pas dans le champ. Sinon, on peut rester dans la vague d'humour. Ici, on a le Parti culinaire du Québec, donc qui utilise la bouffe comme plateforme.
C'est des jokes, là. C'est pas vrai, là. C'est des jokes. C'est comme le Parti rhinocéros.
Non, c'est des vrais partis enregistrés. Puis le chef du Parti culinaire du Québec est très sérieux. Il dit qu'il faut défendre le terroir, la nourriture. Exemple, les projets comme le pipeline devraient être complètement annulés parce qu'ils pourraient être menaçants pour l'intégrité des légumes.
Non, ça se peut pas, là. Parti culinaire du Québec.
Sinon,
je Google à l'instant.
Le Parti libre Saint-Sauveur. Donc, avec un slogan « Je t'aime ». C'est un parti qui met l'emphase sur l'individualité des gens, comment ils sont rendus froids avec autrui. Vous irez voir leur site, son site Internet, c'est assez majestueux. Avec un gros gif, un cœur avec des ailes, avec un gros « Je t'aime » dans le milieu.
Comment tu l'as nommé, le parti quoi? Le parti
libre Saint-Sauveur.
Libre Saint-Sauveur!
Oui.
OK. C'est quoi le lien?
J'espère qu'Anne-Marie Lozic va voter pour eux autres.
Sinon, c'est que j'ai malheureusement pas trouvé leur site Internet. Donc, on a le droit des sans-droits.
Oh boy.
Et Québec cosmopolitain. Lui, j'ai pas trouvé leur site, mais j'ai trouvé plein de cocktails.
Mais le Parti libre Saint-Sauveur, il faut vraiment aller voir ça. Le site web, c'est de toute beauté. Le monsieur Michel Leclerc, qui est à la tête de ça, c'est vraiment beau. Il y a un cœur avec des ailes d'ange. C'est énorme. Énorme.
Sinon, pour puis ceux le, qui sont slogan... patriotiques Attends, et mais... aiment Donald Trump, vous pourrez voter pour le Parti 51, dont le slogan est « Liberté, sécurité, prospérité » et a pour but de devenir la 51e État des États-Unis d'Amérique.
Oh my God!
God bless America!
Oh mon Dieu! Non, mais il faut aller voir le site web. Il y a un beau drapeau américain qui bat au vent en oui. haut d'un drapeau québécois. Il y a même une vidéo. Attends une minute. Il faudrait qu'on aille voir ça.
Oh. Nous vivons à l'ère de la mondialisation.
Oh, que c'est beau.
Les problèmes auxquels nous faisons face sont diversifiés et complexes. L'environnement.
Mais il y a vraiment une valeur de production énorme là-dessus. Là. C'est super bien produit.
La nation québécoise en est une de fierté, de passion et de culture. Mais certains défis dépassent nos frontières et notre pouvoir décisionnel est souvent limité. Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique.
Oh my God.
Les gars, je sais pour qui je vais voter. Ça y est.
On va être le Puerto Rico de du Canada.
Non, on va devenir un vrai État, là. Pas n'importe quoi. Ah. Et bon. Finalement, pour ceux qui ne savent pas pour qui voter, je vous conseille le Parti nul.
Ah oui.
Et leur slogan, c'est « Aucune de ces réponses ». Je vous niaise pas.
C'est parti... toujours mieux que le fameux « Voter blanc » de...
Ouais, hein? Le Parti nul. Mais ça, c'est pas nouveau, je pense, le Parti nul. Il existait avant, me semble. Ça me dit quelque chose.
C'est les éternels cyniques là, qui reviennent à l'élection après élection et... Ça. Aucun politicien arrive à prouver qu'ils n'ont pas raison de faire ça, parce qu'effectivement, il y a de quoi être cynique.
Ça me rappelle, il y a une élection au Nouveau-Brunswick il y a quelques années. Il y avait le parti Rhinocéros qui avait proposé de rendre le poisson illégal. Comme ça allait faire monter le prix du poisson sur le marché noir. Ça allait résoudre tous nos problèmes.
Ben, au Québec, le parti Rhinocéros avait quand même fait un bon travail en disant vouloir construire un pont Montréal-Québec dans le sens de la longueur du fleuve. Plus récemment, il y avait eu le parti Parti Rhinocéros qui avait été ressuscité, mais il avait nommé le parti Québec, qui était comme une fusion de Cuba et de Québec, pour le mélanger, je sais pas quoi, avec du sirop d'érable, faire un party.
Incroyable.
C'est extraordinaire que dans notre système politique, qu'on puisse avoir ces choses-là. J'adore ça.
Ah, c'est incroyable. C'est tout à fait incroyable. Mais c'est un peu... Tu sais, on en rit, mais en quelque part, c'est peut-être ça qui peut faire la force, dans le sens que vraiment n'importe qui veut s'impliquer politiquement peut le faire. Aussi ridicule que ça peut paraître.
Ah oui, mais il y a plein de partis qui partent un peu de souche modeste, mais qui montent rapidement parce qu'il y arrive vraiment avec des idées novatrices que les gros partis ont plus de difficultés à implémenter à cause qu'ils sont très rigides. Les petits partis, il ne faut pas les sous-estimer. Hein. S'ils arrivent avec des bonnes idées, ils sont capables de bien performer.
Ben, on a l'exemple parfait en ce moment. La CAQ, quand c'est arrivé, c'était négligeable sur la map. Là. François Legault, si on nous avait dit que c'est quand il a commencé son parti, il y a peut-être comme 7-8 ans, 10 ans, je ne sais pas, qu'aujourd'hui, il serait candidat sérieux comme premier ministre, on ne l'aurait peut-être pas cru tout de suite. Hein? Fait que c'est sûr que ça peut avoir une influence à long terme.
Sauf qu'il faut se rappeler que la CAQ découle beaucoup de la DQ. Donc, il y avait déjà un bassin de population qui était derrière la DQ, qui ont soutenu la CAQ au départ. Ils ont eu un petit head start, contrairement au parti nul ou au parti libre Saint-Sauveur, qui eux, ont juste l'amour à donner.
Oui, tout à fait. Mais toi, Christopher, je sais que tu avais comme un certain intérêt pour le PCQ. Peux-tu nous dire c'est quoi le PCQ puis c'est quoi qui t'intéresse là-dedans?
En fait, c'est le Parti conservateur du Québec, se tromper avec le parti que... Voyons.
De Andrew Scheer, là, genre?
C'est ça. Il ne faut pas se tromper avec celui du Canada. Ouais, en fait, c'est pas la même gang du tout, contrairement au NPD du Québec, qui est vraiment le même symbole, le même drapeau, les mêmes idées que le NPD du Canada.
C'est quoi la différence entre les deux
différent.
C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas d'affiliation?
Aucune affiliation.
Il n'y a aucune affiliation.
En fait, si je serais leur conseiller politique, je ferais qu'ils changeraient leur nom.
Ouais.
Parce que je ne crois pas que ça les aide au niveau de leur notoriété de s'appeler exactement comme le Parti conservateur du Canada.
Mais c'est sûr que le premier réflexe quand tu entends Parti conservateur du Québec, c'est d'associer au Parti fédéral.
Exactement.
Ça va être le réflexe de tout le monde.
Mais comme à l'instar du Parti libéral du Québec, il n'y a aucunement relié au Parti libéral du Canada, sauf que lui est très connu, donc on le sait.
Ouais. Il n'est pas relié, mais il y a quand même une assez... Je te dirais, Trudeau va supporter les libéraux du Québec quand ça l'arrange.
Ouais, c'est sûr.
Ouais. Moi, ce que j'aimais bien du Parti conservateur du Québec, c'est son chef, Adrien Pouliot. J'aimais bien lire quand il écrivait pour l'Institut économique de Montréal. Le monsieur est un économiste, puis... Ça m'a surpris qu'il se lance en politique active, ou du moins qu'il ne joigne pas une formation déjà établie pour se magasiner un poste important. Non, il a parti sa propre formation, puis il essaye d'amener un message de conservatisme économique. Honnêtement, de leur plateforme, il s'exprime pas beaucoup sur les enjeux sociaux, ou du moins pas tant que ça. C'est vraiment axé sur les politiques publiques de nature économique. Ça, c'est un peu différent quand on regarde du côté des autres gros partis qui parlent abondamment de la société. Le PCQ est un peu plus discret à ce gars-là.
Ben, si tu veux que je mette en lumière leur politique, j'ai pris en note les gros points, en fait, que je trouve intéressants dans leur approche. Parce que je suis pas d'accord. Ils sont pas froids et économistes à tel point, je trouve qu'ils ont des politiques qui vont beaucoup se rattacher aux gens, surtout au fait de redonner le pouvoir aux gens, le pouvoir de décider, le pouvoir de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Surtout aussi, comme tous les partis de droite, réduire l'État, réduire la dette, réduire les dépenses, tout ça est présent. Donc, je peux y aller par volet si vous voulez. Là.
Mais moi, si on regarde sur le site web du Parti conservateur du Québec, quand ils parlent de les principes du parti quand ça vient à l'économie. C'est assez clair qu'ils sont vraiment plutôt à la droite. Nous voulons favoriser l'activité économique. Nous croyons qu'elle doit se réaliser par l'économie de marché, c'est-à-dire des échanges librement consentis entre les individus. L'État n'a pas comme rôle de se substituer à l'entreprise privée et ne devrait pas nous dire où travailler, comment épargner, quoi construire ou produire. Il doit plutôt s'assurer un environnement qui favorise la concurrence, source d'innovation bénéfique aux consommateurs. La propriété privée et un système de justice indépendant sont les fondements de libre marché. Fait que je pense que c'est assez clair qu'ils sont vraiment économique. extrêmement à droite, même plus que la plupart des partis qu'on a en ce moment. Au cas de ceux qu'on connaît le plus.
Effectivement.
Fait que, au-delà de ça,
exemple, si on prend l'agriculture. Donc, ils veulent abolir le FPAQ, donc qui est la Fédération des producteurs acéricoles, car c'est complètement dépassé. Il y a eu beaucoup de plaintes au niveau des producteurs. On n'est pas compétitif au niveau mondial. L'Ontario nous clenche parce qu'on a trop de quotas. Donc, en gros, ils veulent abolir complètement cette fédération-là pour que chaque producteur ait le contrôle sur sa production.
C'est le cartel qu'il faut qu'ils veulent éliminer.
Exactement.
Parce que ça, c'est le sirop d'érable pour ceux qui savent.
Oui, c'est ça. On en a parlé sur deux différents podcasts. On a fait un podcast au complet là-dessus. Il existe un cartel de sirop d'érable au Québec, puis c'est vraiment endommageable pour les consommateurs, pour les producteurs, puis pour la société en général. C'était la conclusion à laquelle on en était venu. Fait que je pense que tu ne trouveras pas d'ennemis à notre podcast là-dessus.
Non, ben c'est en fait pour ça que j'ai commencé par celle-là, sachant les podcasts passés. Sinon, il y a un point qui revient à deux reprises. Démocratiser la représentation syndicale soit au milieu de l'agriculture, donc choisir son union, ou bien même en éducation, pouvoir choisir d'être participant à une union d'étudiants ou pas. Ce qui n'est pas possible présentement. On est imposé les unions dans ces deux domaines-là. Donc, si tu veux faire partie ou pas, ça devrait être à toi de décider, selon moi. Sinon, en art et culture, une chose qu'on ne parle pas souvent, la loi du livre. La loi du livre a régi de A à Z la transaction, que ce soit au moment que l'artiste a fini d'écrire le livre, jusqu'à temps qu'elle arrive dans les mains du client, donc celui qui la jette. Donc, elle va éparpiller les profits à travers toutes les instances. Donc, peu importe si tu as passé 3 ans à écrire ton livre, c'est un hit, c'est une idée de génie, mais le bibliothécaire au bout va avoir exactement la même portion que toi. Donc, est-ce qu'il y a plus de mérite parce qu'il l'a vendu que toi qui l'as créé? Donc, ils veulent abolir la loi du livre pour que les créateurs, en fait, aient plus de contrôle sur leurs œuvres et sur le retour de leurs œuvres. Et aussi, la loi du livre, regardez ça c'est assez aberrant, oblige les écoles à acquérir les livres et manuels scolaires à prix fort auprès des libraires agréés afin de favoriser la concurrence dans le domaine du livre et la baisse des coûts d'acquisition pour les particuliers. Donc, en gros, les écoles ne peuvent pas acheter de livres usagés. C'est bon pour le recyclage, ça.
OK.
En éducation, en gros, ils veulent encourager le bilinguisme, mais créer des cours de renforcement en français. Donc, ils prônent l'approche bilingue, parce que pour eux, et pour plusieurs, dont moi, je trouve que d'être bilingue ne fait pas en sorte que le français meure. Je suis moi-même bilingue, j'ai été à l'école française, anglaise primaire secondaire. Je suis français langue première, j'écoute mon contenu en français et en anglais. J'ai aucun problème avec le français, même si j'étais à l'école anglaise. J'ai pas tout d'un coup oublié mes racines.
Ah non? Ah, c'est bizarre.
Non, ça m'a juste ouvert une plus grande compréhension du monde.
Imagine. Surprise.
Sinon, peut-être quelque chose qui pourrait accrocher pour plusieurs, je le mets là, c'est ajuster la couverture des frais de scolarité universitaire à 40% et bonifier les prêts et bourses pour les étudiants méritants.
Uh-oh.
Plusieurs vont être d'accord, plusieurs vont être en désaccord.
C'est dommage que Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas là.
Mais en gros, c'est juste les gens ayant fait les efforts ou ayant eu des résultats considérables qui pourraient avoir des bourses pour pouvoir poursuivre leurs études universitaires.
Okay.
Si je comprends ça, ou payer le gros prix de 60% de leurs frais d'études.
Wow.
Autre chose en éducation qui est vraiment révolutionnaire, mais tellement logique, je trouve, les enseignants deviennent des professionnels autonomes, des travailleurs autonomes. Et de ce fait, les écoles deviennent autonomes également. Donc, comme dans tout milieu professionnel, un prof peut arriver à une école, donner son CV, l'école peut regarder le CV et dire « Hey, wow, ben j'aurais besoin de toi. » Plus de syndicats provinciaux avec de l'ancienneté, des gens qui font de la suppléance pendant des années avant d'avoir un poste régulier dans une matière qu'ils ne veulent pas. C'est incroyable en ce moment, la lourdeur du système. Et en plus, en faisant ça, on abolit les commissions scolaires. Donc, c'est les écoles, c'est local, c'est eux qui décident.
Wow. OK. Là encore,
c'est comme l'inverse de Québec solidaire.
C'est le contraire de Québec solidaire. On peut vraiment les mettre toutes les deux à des pôles opposés, c'est suspect.
Ouais, à ce niveau-là, c'est assez clair. Wow. Au niveau de l'environnement, ils veulent déréglementer le taxi pour permettre le covoiturage rémunéré fait par tous.
Okay.
Donc, t'es avec tes chums, Vous allez faire un tour à Québec. On veut tout payer le gaz ensemble. On aurait le droit.
Imagine, ouais. C'est vrai que c'est un problématique en ce moment. Ce qui est complètement absurde.
On a un problème avec le trafic. On a un problème avec la pollution. Mais on réglemente pour que les gens soient tout seuls dans leur auto. Okay. Ben, sinon, oui, autant de monde peut venir, mais c'est sur mon bras, parce que c'est mon char. Ça n'a pas de sens, là.
D'un point de vue...
Ça, c'est vrai, il y avait eu des cas où la police du taxi arrêtait du monde qui faisait du covoiturage. Puis que la personne qui se faisait conduire mettait un montant d'argent pour, par exemple, compenser le montant d'essence. Il y avait eu des cas comme ça il y a quelques années. Là. Je trouve ça assez aberrant à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui.
Ils veulent aussi abolir la dernière taxe qui a été mise pour l'essence. Qui a été ajoutée, puis qui n'a aucun retour sur les familles ou sur le réseau routier. C'est juste une taxe supplémentaire qui a été mise sur l'essence. La taxe du carbone, je crois.
En fait, c'est intéressant. Ils ont vraiment tout un volet sur l'environnement. Il est assez intéressant. Bonification de la déduction fiscale pour les frais de déménagement. Abolition de la consigne sur les bouteilles et canettes.
Oui, ça, c'est intéressant parce que ça coûterait plus cher à cause du transport. Donc, on va porter nos canettes en ce moment à l'épicerie, par exemple. Donc, à l'épicerie, les camions viennent chercher les canettes, vont les ramener au même endroit qu'on recycle nos bacs de recyclage. Donc, ça pourrait éviter du transport inutile, donc de la pollution, de juste tout simplement mettre notre canette dans notre propre bac de recyclage. Uh-huh. Autrefois, la consigne a été créée parce qu'il n'y avait pas le recyclage répandu dans tous les foyers au Québec. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ça coûte moins cher de plus consigner, de jeter nos canettes dans les bacs de recyclage personnels.
Honnêtement, je regarde, puis c'est intéressant parce qu'ils ont des idées qui ne sont vraiment pas véhiculées par d'autres parties. Il y a beaucoup de choses originales ici, c'est comme le fun. L'abolition de la TVQ sur la vente des biens usagés, je trouve que ça a du sens.
Ah oui, voir qu'il faut qu'on repaye de la taxe sur un bien qui a déjà eu de la taxe payée.
Ouais, non, complètement d'accord avec ça.
Sinon, en gouvernance, très intéressant, imputabilité des employés de l'État. Qui aurait cru qu'un employé imputable pourrait faire un meilleur travail?
Mais là,
c'est un thème récurrent sur le podcast. Là.
Ouais.
Je sais. Sinon, ils veulent créer des référendums d'initiative populaire. S'il y a une pétition signée par 100 000 personnes, endossée par un député, elle pourrait automatiquement monter vers un statut de référendum d'initiative populaire. Donc, avoir les gens auraient leur mot à dire pendant un mandat si vraiment il y a une initiative populaire de plus de 100 000.
Fait que là, on pourra voter pour des trucs qui s'appellent Bory McBoat. Ça va être génial. Si on se fie à ce qui se passe aux États-Unis dans leurs élections, des référendums causés comme ça par la population, ça peut rendre les choses assez intéressantes et même des fois causer des situations assez ridicules aussi. Ça peut aller dans
Ça sert à rendre les dirigeants imputables. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ce que ton premier ministre fait, la pétition sort, ben on peut renverser une décision.
Ouais, sauf que dans les faits, moi, je pense que ça peut déraper rapidement. Un des problèmes avec la population, c'est qu'elle n'a pas toujours raison, en fait.
Mais avant d'arriver à 100 000 signatures, il faut travailler fort.
Ouais, non, je suis d'accord. Mais même à ça...
Je sais pas si vous venez, il y a quelques années, il y avait une pétition pour destituer Jean Charest qui avait obtenu 260 000 signatures.
Ouais. Mais là...
Mais ça aurait ouvert un référendum. Ça ne l'aurait pas destitué automatiquement, mais quand même.
Tu ne peux pas destituer un politicien au Canada. Il y a pas, je pense
non,
pas
mais c'est ça. C'est une pétition en ligne.
ça sert à rien. Là. Même si tu fais un référendum, c'est pas tenable. Il n'y a pas, d'obligation légale ou judiciaire pour enforcer ça. Mais tout ce que ça fait, en fait, ça pourrait faire peut-être mettre le politicien en question en échec, qui se met sur ses gardes. Je demande si c'est pas une autre façon pour dépenser de l'argent sur des référendums puis des trucs. Je suis moins chaud. Je comprends le fond de ça. C'est de donner une voix à la population qu'elle n'a peut-être pas en ce moment.
Sinon, en culture, on retourne en culture, détaxer la culture. Donc, tout ce qui découle de la culture n'aurait plus de taxes.
OK.
Ça, donc Netflix, hein, entre autres, les cinémas, vos forfaits télé, toutes ces choses-là, selon eux, ne devraient pas être taxées.
Mais c'est
pour encourager la culture.
La plupart est payée par nos taxes, non, oui. Surtout ce qui est produit au Québec, une grande majorité, ça vient de nos taxes.
Ouais. sinon, décloisonner la pratique médicale pour permettre de faire du privé sans se désafier de la RAMQ pour les médecins.
Ouais.
Donc, de cette façon, désengorger les urgences et permettre un système à deux vitesses.
OK. Quand même intéressant. Bonnes...
Moi, j'ai une question pour toi, Christopher. Au niveau des petits partis, tu as l'air d'être très emballé par les propositions véhiculées par le Parti conservateur du Québec, mais tout ça en pratique, tous ces petits partis-là ont quand même peu de chances de percer à la prochaine élection, puis que ton vote, à la limite, entre guillemets, on va dire ça de même, là, que ton vote compte. Est-ce que selon toi, il y a quand même une raison de voter pour ces petits partis-là?
Oui, parce que si on aime des idées, on adhère à un mouvement, mais en votant, on le rend visible. Donc, exemple, si ces gens-là obtiennent 3 % des votes au Québec, bien, ça légitime leur présence. Il y a quand même 3 % de 8 millions de personnes qui sont intéressées à leurs idées. Donc, avec ça, ils peuvent aller chercher plus de gens en disant, regardez, il y a des gens qui sont intéressés à notre plateforme, donc peuvent aller recruter, grossir, faire du bouche à oreille. C'est hyper, hyper utile pour ces partis-là d'avoir des votes. Et je vais vous avouer que je ne suis pas très, très fan de la culture politique actuelle au niveau des élections. Depuis des années, on est à voter pour celui qui pourrait débarquer, celui qui est présent.
Ouais.
Mais celui qui va remplacer est juste là pour vous flatter la laine du bon sens, pour se faire élire. Mais en réalité, il va être pareil. Donc, il faudrait que les gens s'éduquent un peu sur les différentes plateformes. Il faudrait arrêter le populisme. On n'avance pas. On reste enlisé dans la boîte, je pense.
Oui, mais le populisme, c'est ça qui marche. Moi, je pense vraiment que la CAQ, en ce moment, c'est ça qui leur donne le vent dans les voiles. C'est qu'ils ont un petit momentum de populisme qui les pousse. Puis ça marche. Comment on va faire pour réveiller la population à peut-être réfléchir un petit peu plus que « Ah, lui, je l'aime pas » ou « Lui, c'est un trou de cul » parce que honnêtement les gens, ils votent en ce moment, puis si on se fie à ce qu'on voit sur les médias sociaux, les commentaires des gens, même les commentaires qu'on reçoit sur notre page, les gens, ils ont pas vraiment de raison. Ils savent juste que « Lui, c'est un trou de cul » ou « Elle, c'est une folle, fait que je vote pas pour. » Je vois pas en quoi on va amener les gens à se questionner, par exemple, pour un parti comme le Parti conservateur du Québec. Comment on fait pour amener ces gens-là à poser une question autre que juste « lui, je l'aime pas
». Ben, c'est en challengeant les gens, un peu comme qu'on a fait sur Facebook. Faut poser la question « pourquoi?
Ouais. »
Au travail, j'avais un collègue qui voulait rien savoir justement des libéraux, c'est des trous de cul, ben il écoute juste les nouvelles, il va pas plus loin que Pierre Bruneau, puis je veux dire, il comprend pas, juste les nouvelles leur disent « Ah oui, les libéraux sont pas corrects, d'abord sont pas corrects. » Mais après ça, je leur dis « Oui, mais l'économie va bien, ok, c'est ok, mais là, finalement, j'ai fini par le convaincre que finalement, les libéraux, c'était peut-être pas si pire que ça. »
Ouais.
OK, je dis, moi, personnellement, je n'irais pas voter pour eux. Ils ont fait des gaffes. Je veux dire, j'ai des arguments bons et mauvais pour tous les partis.
Ouais.
Je veux dire, il n'y a pas un qui est parfait.
Donc, tout à fait.
Il faut voter pour celui qui est le plus proche de nos convictions puis qu'on croit va pouvoir vraiment changer les choses selon la direction qu'on veut, qu'on veut aller.
Tout à fait.
Moi, je peux vous prédire, en fait, que probablement la CAQ va rentrer, là.
Moi, c'est un peu si la tendance maintient.
Pousse le fait que dans les sondages, la CAQ est premier.
Ouais.
Depuis ce temps-là, la CAQ n'a pas arrêté de monter dans les sondages.
Puis les libéraux
ont
un problème de
conscience. On a tous ceux, justement, dans la vague populiste qui vont voter pour débarquer les libéraux, parce que les libéraux sont méchants. Et ensuite, au final, si on ajoute tout ça, on va sûrement avoir un parti CAQ, soit majoritaire si on se fie aux nouvelles, ou minoritaire si on se fie à la réalité. Parce que, en fait, là, il paraîtrait que 51% des gens sondés ne savent pas encore qui vont voter pour, mais probablement que 30 à 40% là-dedans votent libéral. Donc,
Mais il y a un
les
problème.
sondages, ça ne vaut pas
Les libéraux ont un problème, par contre. Il y a un problème
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'afficher comme étant des partisans du Parti libéral parce qu'il y a un peu un stigma social qui est associé à
Oui.
ça.
Ouais.
C'est des gens qui votent dans l'isoloir, mais pas dans les sondages.
Ouais.
On revoit exactement le Trump versus Clinton. Exactement. Trump a passé, mais personne ne disait qu'il allait voter pour Trump.
Ouais. Mais en fait,
C'est trop honteux.
moi je pense que un des autres problèmes que les libéraux ont,
J'ai vu
ils ont
c'était
un
qui avait
problème.
fait le Vox Pop. Je crois que c'était. C'est quoi, l'humoriste là, qui fait beaucoup de politique. Son nom m'échappe. Mais bon, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'était promené dans les rues de Montréal. Il avait demandé pour qui est-ce que vous avez voté aux dernières élections. Puis personne jamais avait voté pour Philippe Couillard. Puis il disait, c'est statistiquement curieux que personne n'ait voté pour lui durant un après-midi de temps à se promener dans une rue à Montréal.
Et même moi qui voulais défendre les libéraux parce qu'ils se faisaient démoniser, puis j'étais un peu tanné, pas des fake news, mais de toutes les mensonges ou les ajustements volontaires à la réalité qui étaient faits sur eux. Donc, des fois, je m'interposais, mais j'avais quand même une petite crainte, une petite appréhension à aller m'interposer au nom des libéraux. J'avais
Ouais,
peur de
c'est
me faire lancer des
difficile.
tomates.
C'est difficile de... Puis ça, je le sais parce que je suis un de ceux-là qui est souvent venu à la défense des libéraux, même si j'ai pas voté pour les libéraux depuis, ça doit faire au moins 15-20 ans. OK? Fait que je suis pas un libéral. C'est pas dans ma nature. Je décide de mon vote d'une autre façon que juste à cause d'un parti. Mais... Les votes, pour une raison que j'arrive pas à saisir, on dirait que les gens ont honte de dire qu'ils ont voté libéral, tandis que les gens qui supportent Québec solidaire, ils vont se taper dans la poitrine puis le dire à tout le monde, puis le crier sur la place publique, faire des manifs. Les libéraux ont tendance à être un petit peu plus réservés.
Ça, Gab, c'est que ça paraît bien être pour les QS. Parce que QS, c'est
Mais
des soldats de la population.
pourquoi ça paraît
On
bien?
est là pour la veuve la veuve est pleurée. Tandis que les libéraux, c'est les méchants libéraux qui vont voler votre argent puis vont venir manger vos enfants dans leur sommeil.
Il y a ça qui est un problème au niveau des libéraux. Mais l'autre problème qu'ils ont, les libéraux, c'est la distribution des circonscriptions au Québec. Il y a un léger problème. L'urbanisation, c'est un fait. Les gens sont de plus en plus dans les centres urbains. Si on regarde historiquement, les libéraux, ils ont été très forts dans les centres urbains, surtout à Montréal, le Grand Montréal. 50% de la population du Québec, à peu près, vit dans la grande région de Montréal, mais ça ne représente pas 50% des circonscriptions. Si on regarde les circonscriptions où les libéraux sont les plus populaires, il y a une forte population. Mais ces circonscriptions-là représentent un plus grand nombre d'électeurs que dans les circonscriptions en campagne, qui en ce moment, semblent vouloir swinguer du bord de la CAQ. Fait que, il y a un effet campagne versus urbanisme, urbain plutôt. Il y a aussi le fait qu'en ce moment, au Québec, il semble avoir un peu de débalancement au niveau du nombre de personnes dans une circonscription. Puis j'ai vraiment peur que, même si dans les sondages, les libéraux semblent tourner autour de 30 %, à la fin, ça ne va pas se traduire par 30 % des sièges. La manière que ça va là, je pense que ça va être significativement plus bas que ça. Ce qui m'entraîne à croire, comme toi, Chris, que ça va vraiment être une majorité de la CAQ si, comme on dit, la tendance se maintient.
J'ai un autre calcul. Les autres élections, là, le vote anti-libéral, car libéral est le seul parti qui représente le libéralisme, le fédéralisme et toutes ces choses-là, donc tous les gens qui veulent rester au Canada, finalement, votent libéral. Et tous les autres partis sont séparatistes. Mais tous les autres partis se partagent une part du vote qui est distribuée. Mais là, en ce moment, on n'a même pas besoin de faire des coalitions parce que je veux dire, les péquistes sont à 18%. Et Québec solidaire est à 12%. Donc, on pourrait dire que la majorité de cette part de tarte-là va à la CAQ en ce moment. Là. Donc, elle est unie. C'est différent des autres élections.
Peut-être. On va voir. Honnêtement, je n'avais pas réfléchi à ce côté-là. Moi, je suis pas convaincu que c'est nécessairement parce que c'est des partis séparatistes ou pas. Moi, j'ai l'impression que cette question-là est un peu réglée pour cette élection-là. C'est pas vraiment un enjeu. J'ai pas vraiment l'impression que les gens votent parce que tel ou tel parti est souverainiste. Ce que je sais, par contre, c'est que il y a certaines... Ça, on l'a vu la semaine dernière dans notre entrevue. Je sais que tu n'as pas eu la chance de l'écouter encore, Chris, parce que c'est pas sorti en onde. Mais le représentant des libéraux qu'on avait la semaine dernière, quand on lui a demandé c'était quoi ses raisons pour soutenir le parti, la première chose qu'il a dit, c'était que c'était un parti fédéraliste. Puis je pense que c'est un peu ça, le fait que le pourcentage ou le taux de support des libéraux ne change pas. C'est que les gens qui persistent à voter libéral, même quand ça va mal, c'est parce que c'est ceux-là qui ont extrêmement peur de la souveraineté. Même si, pour les autres partis, je ne suis pas sûr que Québec solidaire, quand tu votes pour eux autres... Moi, je connais... c'est anecdotal, je le sais, là. Mais j'ai beaucoup d'amis qui votent Québec solidaire. Puis quand je leur demande, parce que je sais que c'est des fédéralistes, que je leur dis, tu sais, oui, mais t'as pas peur parce que c'est un parti, c'est souverainiste. Puis qu'ils me disent, non, c'est pas grave parce que c'est juste Québec solidaire. Fait que je suis pas prêt à dire que ce pourcentage-là, c'est nécessairement un effort de souveraineté, surtout quand on regarde les sondages, les derniers sondages par rapport aux intentions des électeurs vis-à-vis de la souveraineté. Le mouvement de souveraineté est un bas-fond depuis 50 ans. Mais fait que celui-là, je suis peut-être un peu moins d'accord.
Ça, c'est intéressant parce qu'au Québec, on a un petit peu une forme de stagnation politique sur la question nationale.
Ouais.
En ce sens que, d'habitude, les différents États ont le choix entre des solutions à droite et à gauche et les partis essaient de régler les mêmes problèmes avec des méthodes différentes, mais au final, tout le monde essaie de les régler. Mais au Québec, depuis les années 70, ben on stagne pas mal parce qu'il y a des partis où les gens n'ont pas le choix de voter sur la question nationale d'abord, puis ensuite sur des questions, du moins, des politiques. Parce que si c'est difficile, mettons, pour un parti, pour un individu qui est fédéraliste, de voter pour, même s'il serait d'accord avec les solutions du PQ, mais comme le PQ est souverainiste, il ne peut pas voter pour. Donc, ça fait en sorte que politiquement, le Québec, à mon avis, là, de ce que j'observe, stagne sur la question nationale et s'entraîne tout le reste de la classe politique. Ça fait en sorte qu'on a moins d'outils pour régler les problèmes parce qu'il faut d'abord se positionner sur la question référendaire plutôt que sur c'est quoi la solution qu'on a à un problème donné.
Bon, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on a pour cette semaine. J'espère qu'on a pu vous divertir un peu. C'est le fun aujourd'hui, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. J'ai vraiment adoré. Fait que merci beaucoup à Christopher d'être avec nous cette semaine. Ça nous a fait plaisir de t'avoir là.
Ça me fait plaisir aussi. Donc, au revoir les tinamis.
Au revoir.
Puis si vous avez, vous-même à la maison, vous avez envie de nous jaser, n'hésitez pas à nous téléphoner. Gab va vous répéter toutes les coordonnées.
Exactement. Charles, tu me voles les mots de la bouche. Comme d'habitude, on a notre super ligne gratuite. 1-888-458-4443. 1-888-458-4443. Chaque fois que je dis ça, je pense que je sonne comme une poule. Mais bon. laissez-nous des messages si vous voulez nous parler. Si vous voulez nous laisser vos coordonnées, on vous rappellera. Peut-être que vous pourrez passer en onde si ça vous tente. Sinon, si vous aimez ce qu'on fait, mais likez-nous sur partout. Facebook, Québécois, balado, tout un mot. Donnez-nous des étoiles, ça nous aide. Sur iTunes, c'est pareil. Sur tous les distributeurs de podcasts, puis il y en a une pile. Fait qu'on les nommera pas, mais on est comme Dieu, on est partout. Fait que merci beaucoup à tous d'être là cette semaine, encore une fois. Merci à toi, Christopher, c'est très apprécié. Et Charles, à la semaine prochaine.
À la prochaine.